Je suis vraiment contente d'être ici ce matin, pouvoir partager un message. C'est un message que Dieu m'a mis sur le cœur depuis vraiment longtemps pour partager à l'Oasis. Et je dois dire que c'est un essai pour moi aujourd'hui parce que je vais lire 4 chapitres, one shot, mais par petits blocs. Alors, ça risque d'être un petit peu lourd, mais croyez-moi, l'explication en vaut la peine. Vous allez retourner à la maison rechargée, plein d'énergie, puis transformée par le message de Dieu. Mais avant de commencer, j'aimerais juste... parler un peu de mon expérience à Essor. Alors, comme vous le savez, au début du mois de juillet, avec Andrew, on a leadé une équipe. On était 11 au total pour faire de la mission à Montréal. Qu'est-ce que peu de gens savent, c'est que Essor et moi, ça n'a pas toujours été une bonne chose il y a 5 ans. Je vais commencer du début. Je faisais ma première année au bac en théologie. Et j'avais l'option de partir en mission. Et j'ai dit, faire de la mission, c'est bon, je vais fuir Montréal. J'ai toujours voulu fuir Montréal, toujours voulu fuir mon appel. Ça, c'est un classique Mylène Bravo. Et j'avais l'opportunité de partir en mission dans le nord du Québec pour aller faire de la mission auprès des Autochtones. Ça paraît bien, faire de la mission auprès des Autochtones. Et tout était prêt. J'avais la levée de fonds, j'avais la famille avec qui j'allais rester, je savais qu'est-ce que j'allais faire. C'était approuvé par l'école, mes parents, tout était correct. Pendant cette même période de temps, j'ai fait le cours de Kairos, un cours que vous devez absolument suivre. Ça transforme, ça vous change de l'intérieur à l'extérieur. C'est vraiment fascinant. Alors, j'ai pris le cours et j'ai rencontré Laurie Lee. Et Laurie Lee me dit... Mylène, il y a une bonne opportunité pour faire de la mission à Montréal avec des adolescents ici cet été. Tu devrais y songer. Je suis comme, oui. Dans mon cœur, j'étais comme, pas question. Un camp chrétien, des adolescents, l'été dans une école sans air climatisé. Non. Genre, c'est pas pour moi du tout. J'ai dit, non, Laurie-Lee, moi, je dois partir en mission dans le nord du Québec pour aller évangéliser les Autochtones. Puis elle me dit, OK, c'est bon. Cette même année, je suis tombée super malade, ce qui m'empêchait d'aller faire de la mission. En fait, tout était préparé, sauf une chose. Je n'avais pas demandé la permission à Dieu. Je voulais faire ça, moi, pour fuir mon appel ici. Mais Dieu avait vraiment d'autres plans pour moi, dont celui de rester à Montréal. Et je me souviens, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Pour une fois, je lui demande, tu sais, je suis à l'écoute, Seigneur. Comme, qu'est-ce que tu as pour moi? Où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis j'entends juste ce mot, Essor. J'étais comme, non, j'ai pas envie de faire Essor. Et j'avais cette conviction que je devais faire Essor. Puis justement, Laurie Lee, elle me texte, elle me dit, Mylène, on n'a vraiment personne, on n'a pas de leader, on a besoin d'une leader pour un groupe de 10 jeunes de partout du district Saint-Laurent. Des jeunes. pour faire de la mission ici à Montréal. Je lui dis, OK, c'est bon, je vais le faire. Et la fille qui n'aimait pas les adolescents, qui n'aimait pas les camps chrétiens, se retrouve aujourd'hui à être le pasteur jeunesse à l'Oasis. Et je trouve que c'est vraiment formidable comment Dieu transforme les choses, mais comment Dieu nous donne un cœur pour les personnes qu'on s'attend le moins. J'avais tellement de préjugés envers les adolescents, même si j'en avais été une, envers la mission à Montréal. Je voulais évangéliser ailleurs alors que mes voisins n'étaient pas convertis. Et tout ça pour dire que souvent, on fuit notre appel. Ou parce qu'on a des préjugés, on est bloqué. Oh non, Seigneur, tu veux que j'aille parler à mon voisin? Non, il fume la cigarette. Moi, ça ne m'intéresse pas, Seigneur. C'est pas pour moi. Mais non, Dieu veut au-delà de ça. Dieu veut vraiment qu'on passe au travers de nos préjugés. Il ne nous demande pas notre opinion sur qui mérite ou ne mérite pas l'Évangile. Il veut tout simplement qu'on obéisse. Ne laissons pas nos préjugés nous limiter dans notre marche avec le Seigneur. Ne laissons pas nos préjugés être un obstacle dans notre obéissance. C'est peut-être facile à dire, mais je sais à quel point c'est difficile de faire. parce qu'on est rempli de préjugés à travers nos expériences, à travers ce qu'on peut écouter et différentes choses. Alors, j'aimerais commencer par définir ce qu'est un préjugé. C'est un jugement sur quelqu'un, quelque chose qui est formé à l'avance selon certains critères personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne, de cette chose. Nous avons ici, dans cette salle, plusieurs préjugés. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Des préjugés envers une personne de classe sociale différente, de couleur différente, d'une histoire différente, d'un mode de vie qui est différent. Peut-être qu'il est atteint d'une maladie mentale, puis on ne le sait même pas, mais on a des préjugés envers ça, ce qui empêche la personne d'en parler. Parfois, on a des préjugés envers les étrangers. Parfois, on a des préjugés envers les personnes qui reçoivent les étrangers. Il y a des préjugés partout. Et c'est triste, parce que ce n'est clairement pas la volonté de Dieu pour notre vie. Et on trouve un passage biblique, en fait, une histoire dans la Bible qui parle exactement de ça. On connaît cette histoire par l'homme qui a été pris dans le ventre d'un gros poisson pendant 3 jours. Je parle bien d'ici de Jonas. Il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire que je pense qui sont importants de ressortir pour notre vie individuelle, mais surtout en communauté. Alors, je vais essayer de lire les 4 chapitres pour sortir le meilleur de toute l'information, le meilleur de toute l'histoire, parce que j'ai pas envie de... Peut-être c'est ma génération micro-ondes que je veux tout instantané, mais je veux vraiment que ce message-là devienne bon pour nous puis qu'on le prenne aujourd'hui. Alors, je vais demander à Bérénice de lire Jonas 1, s'il te plaît.
Jonas 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas 1, verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la présence de l'Éternel, il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya un prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur et implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire le malheur. » Et ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il dit, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur et quelle est ton occupation et d'où tu viens? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Et il leur répondit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ? » Il sut en effet qu'il fuyait loin de la présence de l'Éternel, et il le leur déclara. Il leur dit, « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui vous qui attire sur cette grande tempête sur vous. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, puis mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée comme contre eux. Alors ils s'adressaient à l'Éternel et dit, Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la présence de cet homme. Ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Et puis, 15, puis il prit Jonas, le jeta dans la mer, et il fut de la et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Il offrit un sacrifice à l'Éternel et fit des vœux.
Merci, Bérénice. Il y a différents éléments dans le premier chapitre de Jonas. Premièrement, on a Jonas qui est un prophète d'Israël. Ensuite, on parle de Ninive. Où est-ce qu'il y a des Ninivites? C'est un peuple ennemi d'Israël, vraiment ennemi. Qu'est-ce qui faisait le péché qu'ils avaient était comparé à celui de Sodome et Gomorrhe. Alors, vous pouvez imaginer à quel point ils les aimaient vraiment pas. Alors, pour Jonas, d'entendre Dieu lui dire d'aller là-bas, de proclamer le message de Dieu, sachant très bien que Dieu est miséricordieux puis allait leur accorder grâce s'il y avait repentance, il disait, voir que comment qu'il peut faire ça à un peuple ennemi. L'attitude de Jonas peut être notre attitude de temps en temps. Où est-ce que je veux en venir? Par exemple, on peut être dans un autobus, pour ceux qui prennent le transport en commun, et Dieu nous dit, « Ah, bénis cette personne avec une parole. » Ou « Prie pour telle personne. » Il nous dit, « Non, Seigneur, c'est mon ennemi, comme il pêche contre toi. Pourquoi est-ce que je vais prier pour cette personne-là? Ou pourquoi je vais m'approcher de cette personne-là? » C'est de l'arrogance. Jonas a cette attitude. Il est arrogant. Il se croit meilleur que les Ninivites. Il croit que son peuple est meilleur. Alors, on sait, vous et moi, à quel point Dieu a eu grâce envers les Israélites. Et sachant très bien ça, étant très conscient de sa désobéissance, Jonas, il part loin de l'Éternel. La conséquence du péché, on s'éloigne de Dieu. Je suis la première à dire qu'à chaque fois que je pêche, je m'éloigne de Dieu. Je prends mes distances, sachant être très consciente de ce que je fais. La même chose arrive lorsqu'en tant que communauté, nous avons des préjugés envers les gens. Et nous sommes des obstacles. Nous nous éloignons de Dieu. Et on ne veut pas ça. Mais qu'est-ce qui est encore plus intéressant dans le chapitre 1, c'est que Jonas, il s'enfuit, il s'en va à l'opposé de Ninive et il paie les marins pour voyager. Mais non seulement son péché a des conséquences sur sa vie et sa relation avec Dieu, mais la tempête n'affecte pas seulement Jonas comme sur sa tête, là, c'est tout le bateau. Parfois, notre refus ou nos préjugés ou notre arrogance non seulement nous affecte nous, mais affecte notre communauté. Notre péché peut affecter la communauté et les gens autour de nous. C'est fort. Notre devoir aussi en tant que chrétien, c'est cheminer les uns avec les autres et nous garder droits devant le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est bon dans ce premier chapitre que je trouve intéressant? c'est que, oui, Jonas reconnaît sa faute. Mais les marins, qu'on peut considérer comme les non-chrétiens de notre vie de tous les jours, ils voient la grandeur de Dieu, puis ils se repentent. Alors qu'initialement, le message était pour Ninive, il y a non seulement eux qui vont bénéficier du message de Dieu, mais il y a toutes les personnes qui étaient sur le bateau. Où est-ce qu'ils renoncent à leur pratique et ils décident d'adorer Dieu? Ils leur offrent un sacrifice à Dieu. Et ils jettent Jonas à la mer. Lorsqu'on reconnaît nos fautes, on reconnaît notre péché, ça bénéficie la communauté aussi. Les personnes qu'on s'y attend le moins. Je ne pense pas que Jonas pensait que les marins allaient bénéficier de la grâce de Dieu sur leur vie, mais c'est arrivé. Et à la fin, une repentance. Dieu tourne chaque élément en quelque chose de bon. Chaque échec, il sort une victoire aussi. La première désobéissance de Jonas apporte la victoire, celle que les marins, maintenant, reconnaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. Est-ce que nous voulons reconnaître Dieu, nous, en tant que communauté? Est-ce que nous sommes prêts à apprendre de nos échecs en tant qu'Église et faire en sorte que ça bénéficie notre communauté? Moi, je le veux. Alors ça, c'est pour Jonas 1. J'appelle Bérénice pour Jonas 2.
Jonas 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le vent du poisson. Du vent du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. » Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Et tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et des courants qui m'ont environné. Toutes tes flots sont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je ferai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues m'entouraient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Des verrous de la terre qui m'enferment toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du groupe. L'Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, s'éloigne de ta bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre.
Désolée, j'étais un petit peu en retard avec le PowerPoint. Merci, Bérénice. Ici, on voit le, le cri de repentance de Jonas. Son péché a eu non seulement en fait une conséquence au niveau de la tempête, mais au niveau personnel. Il a été pris 3 jours dans le ventre d'un gros poisson et 3 nuits. On peut mettre ça, si on le met dans les mots d'aujourd'hui, des fois on est bloqué dans notre foi, on est comme pris, on n'arrive pas à sortir, pas avancer, pas reculer, pas aller sur les côtés, on est comme, qu'est-ce que je fais? Je vois rien. On est comme dans une vallée de l'ombre de la mort. Puis on ne sait pas pourquoi. Ou parfois on le sait pourquoi. Dans le cas de Jonas, ça a été sa désobéissance qui l'a amené à ce point, à ce stade-là. Des fois, dans notre vie, notre désobéissance nous amène dans un côté très obscur, dans un endroit très obscur, de la même manière que Jonas. Et la seule solution, c'est d'arrêter de fuir Dieu, la première étape, et de le chercher. Et en le cherchant, il faut se repentir sincèrement et être reconnaissant pour ce qu'il fait. Jonas, ici, il reconnaît, en fait, il dit, « L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. » Il a donné une deuxième vie à Jonas. Dans sa deuxième chance, il a donné une deuxième vie. Dieu nous donne ça aussi, à travers Jésus. On a une deuxième opportunité. Des fois, on touche le fond. Mais par Jésus-Christ, par son sacrifice, par ce qu'il a fait pour nous, parce que nous y croyons, nous avons accès à une deuxième chance, une deuxième opportunité. Nous avons une victoire sur cette vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est seulement lorsque nous reconnaissons nos fautes aussi. Lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas écouté l'Éternel. Nous n'avons pas écouté le commandement de Dieu pour notre vie. Et vous me dites, Mylène, mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Jésus veut pour nous? Et je me suis préparée. Dans Matthieu 28, le verset 19, Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est notre mission. C'est une mission communautaire, individuelle. C'est ce que Dieu nous dit à nous. Il ne dit pas aller faire des disciples seulement les Haïtiens, ou seulement les Arabes, ou seulement les Québécois. Il dit les nations. Ça inclut absolument chaque personne sur la planète, sans discrimination, en laissant de côté nos préjugés. Bien évidemment, des fois, des personnes ont un appel pour un groupe spécifique. Mais dans une ville comme Montréal, nous avons les nations à nos pieds, à nos portes, comme voisins. Est-ce que nous obéissons ou est-ce que nous fuyons? Moi, je veux obéir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux obéir. Je n'ai pas envie d'être pris dans un poisson pendant 3 jours et 3 nuits, même si les probabilités sont très faibles aujourd'hui, mais c'est toujours plus facile l'obéissance à long terme. Et j'aimerais inviter Corinne pour lire Jonas 3.
Jonas 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs. Puis, les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravissera pas et ne reviendra pas sur sa décision. S'il ne renonça pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il avait menacé et ne le fit pas.
Merci, Corinne. Alors, Dieu ordonna au gros poisson de relâcher Jonas. Et là, Jonas, Dieu lui parla pour la deuxième fois. Combien de fois Dieu doit nous parler comme plusieurs fois avant qu'on comprenne le message? Mais il a grâce envers nous. De la même manière que Dieu accorda une deuxième chance à Jonas, il accorde une deuxième chance aux Ninivites. Notre Dieu est un Dieu de deuxième chance, de deuxième opportunité, de nouvelles opportunités. Et Dieu voulait vraiment voir à travers l'histoire que les Ninivites se repentent et qu'ils aient accès à sa grâce et à sa bonté. Sa grâce et sa bonté n'étaient pas seulement limitées au peuple d'Israël. Il voulait que même le peuple ennemi ait accès à cette grâce, à ce pardon. Il voulait qu'ils reconnaissent qu'il était Dieu. Jonas se trouve à être un étranger dans cette terre ennemie. Il n'est pas là par choix, mais par le choix d'obéir à Dieu. Mais il se retrouve là dans une situation qu'il n'a pas nécessairement voulu en premier lieu. Ça nous arrive à nous aussi, que Dieu nous envoie quelque part, puis on est là comme des étrangers, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Mais il nous accompagne, et c'est lui qui parle à travers nous. De la même manière que je me suis questionnée toute ma vie de pourquoi on est venu à Montréal avec mes parents, pourquoi est-ce que je parle français? Pourquoi je ne suis pas au Chili, dans la chaleur, dans le beau temps, avec ma famille? Dieu m'a voulu ici. Mon appel est ici. Je suis une missionnaire à Montréal. Mes parents, évidemment, ont dû immigrer ici. Je sais que parmi nous, on a des personnes qui ont immigré non pas par choix. Il y a des circonstances qui font qu'on se trouve dans des situations qu'on ne cherchait pas. Ou même ici, Montréal, où est-ce que des fois, on se retrouve à accueillir des gens qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que le peuple de Ninive, n'a pas rejeté le message proclamé par Jonas. Il a accepté et s'est repenti. Ils se sont repentis. Jonas a été accueilli. Il était un migrant forcé. Il a été accueilli en tant que migrant. Et lui, il a obéi, étant conscient de cette deuxième chance que Dieu lui donnait. Et maintenant, en fait, à la fin de l'histoire ici, Ninive est sauvée. On parle de 120 000 personnes qui ont été sauvées par le simple message proclamé de Jonas qui ne voulait pas y aller initialement. Parfois, c'est juste une personne dans notre vie. Est-ce que nous voulons faire cette différence chez cette une personne? Moi, je le veux. il faut proclamer le message de Jésus-Christ, où que nous soyons. Laisser de côté nos préjugés envers les personnes que Dieu nous amène à parler. C'est notre devoir en tant qu'Église, en tant que fils de Dieu. Nous avons reçu un message, on s'est approprié ce message. Partageons-le. On a presque fini et je voudrais inviter Corinne pour le dernier chapitre. On est capable.
Jonas 4. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et vaut mieux pour moi et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arrivait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche et d'un grand nombre d'animaux. »
Merci. Jonas a plus pitié d'une plante que de 120 000 personnes. Et parfois, c'est notre attitude. On a plus pitié de choses vaines que de choses vraiment plus importantes, comme la perte de nos voisins, de notre famille, des amis. Nous sommes parfois très égoïstes. Et je suis la première à le reconnaître. J'ai beaucoup de difficultés à parler de Jésus à mon voisin qui est athée et qui ne semble pas vraiment aimer les immigrants. Mais j'essaie de lui dire allô quand je peux, lui parler de temps en temps, quand il est là. Mais il est important de voir que lorsqu'on écoute les nouvelles, et qu'on voit des attentats terroristes, et qu'on dit, ils ont eu qu'est-ce qu'ils méritaient. Ce n'est pas une attitude à avoir en tant que chrétien. Quand nos voisins qui ne sont même pas croyants ont une plus grande compassion que nous envers des personnes qui meurent, injustement, ce n'est pas correct. Nous devons vraiment chercher à avoir un cœur comme Jésus de compassion, qui va vers les personnes exclues. Est-ce que vous avez vu ses disciples, leur histoire, ou les gens avec qui ils traînaient? Lorsque j'ai l'histoire de Jonas, je ne veux pas être comme Jonas. Ça m'inspire à être une autre personne, à avoir une autre attitude. Parce que oui, il a obéi, mais son cœur n'était pas à la bonne place. Il voulait voir la ville de Ninive détruite. c'est qu'est-ce qu'il voulait. Moi, je n'ai pas envie de voir Montréal détruite. Je n'ai pas envie de voir la province de Québec détruite. Je n'ai pas envie de voir le Canada détruit. Je n'ai pas envie de voir le monde entier détruit par le péché. Moi, je veux être lumière où est-ce que je suis. Je veux aimer les gens. Même s'ils ont péché contre l'Éternel. Je veux les aimer. Parce que c'est ça que je suis appelée à faire. Qu'elle a propagé l'Évangile, le message de Jésus. Ne soyons pas égoïstes avec notre foi. Ne soyons pas pris dans tous nos préjugés, ce qui nous empêche d'avancer. Moi, je rêve d'une oasis encore plus cool que celle-ci. Où est-ce qu'on va accueillir des étrangers? On n'aura pas peur de parler avec des Arabes qui ont une foi musulmane. Ou d'avoir une diversité culturelle étonnante et pouvoir vraiment travailler tous ensemble, unis, pour Jésus. Est-ce que c'est votre rêve à vous aussi? Puis je veux nous encourager à laisser nos préjugés au pied de la croix, à être obéissant à ce que Dieu nous dit de faire et à être courageux et audacieux dans notre foi, dans le message qu'on doit propager. C'est qu'est-ce que je veux pour l'Oasis. C'est qu'est-ce que je veux pour ma vie en premier. Et je sais qu'on est capable. Il faut juste voir la diversité présente à l'Oasis. C'est pas dans toutes les églises comme ça. C'est un privilège d'être côtoyé avec des frères et des sœurs qui ont des cheminements différents, de différentes cultures. Nous n'avons pas toutes la même histoire, et c'est correct. Et c'est bien, parce qu'on peut s'encourager mutuellement. Et je voudrais juste finir avec une prière de déclaration envers l'Oasis, notre Église. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le privilège de propager l'Évangile et de parler de qui tu es et ce que tu as fait. Parce que ta grâce abonde et parce que tu es toujours bon. Oui Seigneur, tu nous appelles à la repentance et je te demande pardon en tant qu'Église si nous n'avons pas obéi à ce que tu nous as commandé de faire. Seigneur, je te prie que tu aies grâce envers nous et que tu nous aides à être une meilleure Église, que nous puissions laisser de côté nos préjugés pour pouvoir grandir ensemble, unis à travers toi. Parce que tu es celui qui nous unit, Seigneur. Tu es celui qui est bon envers nous. Tu es celui qui pourvoit. Et Seigneur, je te prie pour tous les voisins ici de Cloverdale, dans Pierrefonds, je prie que tu puisses les toucher, que notre vie puisse être tellement brillée, qu'on puisse tellement sentir bon avec la foi, que ces gens ne peuvent rien faire à part, ils ne peuvent plus résister qui tu es et qui veulent absolument venir découvrir qui tu es à travers l'Oasis ou les différentes églises évangéliques ici. Seigneur, tu es bon. Nous te remercions pour les deuxièmes chances que tu nous accordes, pour ton pardon et parce que tu continues à nous parler même si des fois nous t'offensons, Seigneur. Et oui, merci pour cette journée. Merci pour cette belle communauté. Merci pour la diversité. Merci parce que tu nous veux différents. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen.